l'Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Aujourd'hui, l'Église infaillible avec le père Antoine.
On peut être troublé par la crise dans l'Église qui semble s'aggraver malgré de beaux signes de renouveau ici et là. Ce qui jette beaucoup de catholiques sincères dans le trouble, ce sont certaines paroles venant de ceux qui exercent l'autorité dans l'Église. Parfois, il semble bien qu'un évêque dise le contraire d'un autre évêque, voire que le pape lui-même contredise un autre pape. Impossible alors de suivre les deux. Or, qui vous écoute m'écoute, a dit Jésus à ses apôtres. Le catholique qui veut être fidèle au pape et à l'Église, et à travers eux au Christ, ne sait plus comment réagir, car il sait que, hors de l'Église, point de salut. Il n'envisage donc pas de faire bande à part en formant une Église parallèle. Alors que faire ? D'abord, il faut renouveler notre foi en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Malgré les tempêtes et vents contraires, l'Église est insubmersible, car elle a reçu du Christ les promesses de la vie éternelle. Jésus dit à Simon, « Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Ainsi, nous savons par la foi que l'Église, telle qu'elle a été instituée par la volonté du Christ, est perpétuelle. C'est-à-dire qu'elle durera jusqu'à la fin du monde et qu'elle sera toujours fidèle à sa mission. On appelle cette propriété l'indéfectibilité de l'Église. Son perpétuel, le primat de l'évêque de Rome, la hiérarchie de l'Église, la doctrine révélée et les sacrements de l'Église. Et cette indéfectibilité est explicitement définie au Concile Vatican I. Je cite, « L'Église, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu'à la fin des siècles. » Fin de citation. Dieu soutiendra l'Église jusqu'à la fin du monde, de sorte qu'elle ne sera pas dominée par ses ennemis. Le Christ ressuscité l'a dit à ses apôtres, en Matthieu 28, 18, 20, « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Et en Jean 14, 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. » C'est clair, l'assistance efficace de Jésus concerne non seulement les apôtres, mais la hiérarchie qui leur succédera à toutes les époques. « Et les ennemis de l'Église ne l'emporteront pas, » dit Jésus à Simon. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le Concile Vatican I enseigne que le primat doit perdurer. Je cite, « Par l'institution du Christ, Saint Pierre a pour toujours des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle. » Fin de citation. En effet, Jésus a institué le primat de Pierre comme fondement visible de l'Église. Or, l'édifice ne peut perdurer sans que perdure son fondement. Donc, puisque le Christ a voulu que l'Église perdure, alors il a voulu que le primat perdure aussi. Et Jésus ressuscité a dit à Pierre, « Paix mes brebis. » Or, tant qu'existe le troupeau à paître, le pasteur doit exister aussi. Voilà le premier point. Renouveler notre foi en l'indéfectibilité de l'Église. Le deuxième point consiste à comprendre ce qu'est le magistère de l'Église et qu'il a différents degrés d'autorité. Qu'est-ce que le magistère ? Eh bien, Dieu s'est révélé à l'homme. Et puisque l'homme est un animal social, Dieu a voulu que sa révélation soit transmise aux hommes par d'autres hommes, par l'Église. En plus du pouvoir de sanctifier par les sacrements, Jésus-Christ a donné aux pasteurs de son Église le pouvoir de gouverner son troupeau et le pouvoir d'enseigner la vérité. Ce pouvoir d'enseigner s'appelle le magistère. Notez la différence. Enseigner n'est pas gouverner. Un enseignement n'est pas une directive ou un ordre. Quand le maître de géométrie dit à ses élèves que la somme des carrés des plus petits côtés d'un triangle rectangle est égal au carré de l'hypoténuse, c'est une vérité géométrique qu'il enseigne. Le maître exerce là son magistère. Quand ce même maître ordonne aux élèves d'ouvrir leur cahier ou d'apprendre le théorème de Pythagore pour le lendemain, il n'enseigne pas, il gouverne sa classe. Et de même, quand un pasteur parle, il faut distinguer ses paroles de gouvernement de ses paroles d'enseignement. Par les paroles de gouvernement, les pasteurs dirigent l'action des fidèles vers le bien commun, à savoir, dans l'Église, le salut et la sainteté. À un ordre légitime, donné par l'autorité compétente, le fidèle répond par l'obéissance. Mais notons bien ceci, ces ordres s'adaptent aux circonstances. Ils peuvent changer. Par exemple, Paul VI fixa la durée du jeûne eucharistique à 1 heure avant la communion, alors qu'auparavant, elle était de 3 heures. Et deuxièmement, ces directives, ces ordres, ne sont pas infaillibles. Cependant, même si ces directives n'étaient pas judicieuses, il faudrait obéir, du moment qu'elles n'outrepassent pas la compétence du pasteur et qu'elle ne nous oblige pas à commettre un péché. Heureusement, pour obéir à un ordre, on n'a pas besoin d'être d'accord avec lui. C'est toute la différence avec l'enseignement. Impossible d'adhérer à un enseignement sans être d'accord avec lui. Nous voici au cœur du sujet. À quoi reconnaît-on une parole d'enseignement? Tandis que l'ordre dirige la volonté vers le bien commun, l'enseignement éclaire l'intelligence en exposant le vrai. Tout enseignement des pasteurs de l'Église est-il infaillible? Non. Seul le plus haut degré du magistère est infaillible et exige une adhésion de foi. Et cela à 3 conditions. Nous les résumons ici de façon très schématique. Il faut premièrement que le détenteur du magistère suprême parle, c'est-à-dire le pape seul ou avec l'ensemble des évêques. Deuxièmement, il faut qu'il enseigne directement une vérité. Troisièmement, il faut qu'il l'enseigne comme révélé par Dieu ou lié à cette révélation. Si l'un de ces éléments manque, le degré d'autorité sera plus faible. Par exemple, récemment, le pape François a pris position sur la question du changement climatique. Ce jugement sur la situation actuelle n'est pas un enseignement doctrinal. Parfois aussi, le magistère suprême enseigne une doctrine, mais pas comme révélée par Dieu. Ainsi, plusieurs papes ont dit que la Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. Cette doctrine, qui est largement admise, n'exige pas une adhésion de foi. De tout cela, tirons quelques conclusions pratiques. Premièrement, il faut accueillir avec respect et docilité toute parole d'un homme d'Église. Mais n'essayons pas de la justifier à tout prix. Distinguons bien entre enseigner et gouverner. En matière de gouvernement, les pasteurs, y compris le pape, peuvent se tromper. Et cela ne dispense pas généralement d'obéir. Deuxièmement, dans les enseignements eux-mêmes, tenons compte des différents degrés du magistère. On évitera bien des troubles de conscience en constatant que beaucoup d'enseignements n'engagent pas l'infaillibilité de l'Église. Enfin, troisièmement, on doit toujours comprendre un enseignement magistériel en cohérence avec les autres. Il est impossible, nous l'avons dit, d'adhérer à deux enseignements contradictoires. Si un tel cas se présentait, il faudrait choisir l'enseignement qui bénéficie du plus haut degré d'autorité magistérielle. Et prions. Prions Dieu avec grande confiance, qu'il inspire au pasteur de son Église une parole claire et évangélique, pleine de charité et de vérité au service de la foi.